Allez, mes amis, on va commencer notre merveilleux cours. Pas que le cours est merveilleux, mais que votre présence est merveilleuse. Et donc, on dit bonjour à Monsieur Attali qui vient d'arriver. Et juste une petite annonce. Nous avons avec nous le livre de Monsieur Ababou. Voilà. Alors, Monsieur Ababou, je pense que vous le connaissez. Nous faisons un cours régulièrement avec lui. Et bon, comme il n'est pas là, je peux le flatter. C'est un homme d'une sagesse inimaginable. J'avoue que ça fait des décennies qu'on se connaissait, mais depuis qu'on a commencé les cours ensemble, j'ai découvert ce géant. Et quand vous le voyez, un homme anav, un homme humble comme ça, on ne pourrait pas imaginer qu'il a une connaissance à ce point inimaginable. C'est un ancien professeur de la Sorbonne. Il était pendant des années le conseiller de nombreux ministres en France. Après, il a fait une vraie teshuva. Il est venu en Israël, etc. Il a enseigné ici au Maron Lev. Et puis, il a des connaissances de Torah absolument époustouflantes. Donc, il vient de sortir un livre ici. Il coûte 70 shekels. Bientôt, il sera sur mon site aussi et sur mon Facebook. Voilà, il est là. Je vous conseille vivement de vous le procurer parce que c'est vraiment un livre en chinois, sous-titré japonais, oui. Oui. Et un peu d'italien aussi. Ben, en français, évidemment. Sinon, je ne vous le proposerai pas. Donc, un livre absolument fabuleux. Et donc, à la fin du cours, celles ou ceux qui sont intéressés, vous pourrez aller chez mon épouse et elle vous le proposera. Et vraiment, encore une fois, je vous le conseille car c'est vraiment un livre vraiment extraordinaire. Et d'ailleurs, il est en train d'en écrire un autre, cette fois-ci directement sur la Torah. Et ça vaut vraiment la peine de se le procurer. Voilà, on va commencer notre cours, mes amis. Un cours un petit peu difficile aujourd'hui. Je demande au maître du monde de m'aider à trouver les mots justes. On n'empêche pas les femmes de parler parce que c'est comme demander à l'eau de ne pas être mouillée. Mais, ah, c'est incroyable, un miracle, elle se taise. Un miracle. Donc, quoi qu'il en soit, on va commencer notre... Ouh, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. Très bien. Et donc, on va commencer notre cours aujourd'hui. Vous savez qu'on est dans la sixième semaine. Et la sixième semaine est par rapport à l'attribut divin qu'on appelle Yesod. Yesod qui veut dire fondation. La semaine prochaine, dernière semaine, la semaine par rapport à la Malchut. Et bien évidemment, notre prochain cours sera lundi, qui est Yom Yerushalayim. Donc bien sûr, on parlera de la Malchut, on parlera de Yerushalayim. Mais aujourd'hui, on est donc dans la sixième semaine par rapport à l'attribut de Yesod, qui veut dire les fondations. Et comme vous le savez, l'homme a été créé le sixième jour. Chaque jour de la création correspond à un attribut divin, comme en ce moment chaque semaine. Et l'homme a été créé le sixième jour. Alors évidemment, ce sont des codes, ce sont des métaphores. Je ne fais pas partie de ceux qui croient que le monde a été créé en six jours. D'ailleurs, la plus grande preuve qu'il n'a pas été créé en six jours, puisque la lune et le soleil ont été créés le mercredi. Donc, il ne peut pas y avoir 24 heures le premier jour, deuxième jour, troisième jour, puisque la lune et le soleil n'existaient pas encore. Donc, je pense qu'aujourd'hui, avec les siècles et les millénaires, on a tous compris que la Torah est complètement codée, au point d'ailleurs que même le Ramban, Nachmanide, disait dans ses commentaires que vous pouvez voir sur les gros Chumashim, il dit « Je ne comprends pas pourquoi la Torah parle du Maase Bereshit, du récit de la création, parce que personne ne peut comprendre ce qu'elle dit. » Et il nous fait une allusion claire comme quoi il est absolument évident qu'on ne va pas être ce point idiot d'imaginer que chaque jour de 24 heures, et etc. Ce sont des codes. Ce sont des codes qui transmettent des messages inimaginables. Et bien sûr, rares sont ceux qui arrivent à décoder toute la Torah, et à plus forte raison, des passages aussi mystérieux que le récit de la création lui-même, au point, encore une fois, que même Nachmanide dit qu'il ne comprend pas pourquoi la Torah commence par ce récit, puisque personne ne peut le comprendre. Quoi qu'il en soit, l'homme est créé le jour où se dévoile l'attribut de Yesod, fondation. C'est quoi des fondations? Vous le savez tous et toutes, d'accord? Aujourd'hui, je veux dire toutes et tous, parce qu'on va parler plus de la femme que de l'homme. Donc, les fondations, c'est quoi? C'est, on fait un grand trou dans le sol, on met après, des choses dans ce trou-là pour pouvoir soutenir la maison, mais sans les fondations, c'est absolument impossible de construire une maison, tout s'écroule. Ce qui veut dire que les fondations soutiennent la maison. Pourquoi l'homme a été créé justement sous le signe de la tribu de Yesod? Il y a tellement de secrets à révéler aujourd'hui. Je ne pourrai pas tout dire, mais je vais en révéler certains. Pour nous faire comprendre que l'homme a été créé pour être, lui aussi, comme les fondations qui vont soutenir la maison d'Hachem dans ce monde, le royaume d'Hachem dans ce monde. D'ailleurs, vous remarquerez que le jour, tout de suite après la création, c'est le Shabbat. Qu'est-ce que veut dire Shabbat? Vous allez tous me dire le jour du repos, vous avez tous tort. Shabbat ne veut absolument pas dire le jour du repos, Shabbat veut dire revenir, la chouve. Et dans la prière que nous disons, nous les hommes et certaines femmes aussi, le Shabbat, qu'est-ce que l'on dit? Yismechu bemalchutecha shomrei Shabbat. Ils se réjouiront dans ta royauté, ceux qui observent le Shabbat. Donc, le mot Shabbat veut dire la chouve, revenir vers Hachem, mais pas revenir vers Hachem dans le sens de l'église ou de la synagogue, mais revenir vers Hachem dans le sens de le dévoiler dans ce monde. Parce que Hachem se cache dans ce monde et il a demandé à l'homme de le dévoiler, ça veut dire de construire sa royauté dans ce monde. C'est pour ça que tout de suite après la création de l'homme, l'homme rentre dans le Shabbat pour bien lui faire comprendre, comme on lui dit dans la prière, « Yismechu bemalchutecha shomrei Shabbat », par le fait qu'on observe le Shabbat, c'est-à-dire qu'on revient vers Hachem, le but du Shabbat, c'est de dévoiler la royauté d'Hachem dans ce monde. Ça veut dire qu'un jour viendra où tout le monde comprendra que le seul vrai, unique, authentique dirigeant de ce monde, c'est celui qui l'a créé. Il ne l'a pas seulement créé, puis après il s'est caché, mais il se cache pour donner à l'homme le mérite de le dévoiler. Mais pour dévoiler la royauté d'Hachem dans ce monde, c'est-à-dire pour dévoiler son palais, je préfère le dire en français, pour dévoiler sa présence dans ce monde, il faut d'abord des fondations qui vont tenir cette maison d'Hachem dans ce monde. Et c'est la raison pour laquelle l'homme a été créé le sixième jour par rapport à la tribu de Yesod, pour nous faire comprendre que le véritable travail de l'homme dans ce monde, c'est de tout faire pour dévoiler la maison d'Hachem dans ce monde. D'ailleurs, comme on le voit dans le verset, « Va'asuli mishkan, ve'shachanti, betochan, vous me ferez un sanctuaire et je résiderai parmi vous. » Et comme on le sait, nos maîtres expliquent dans le Zohar et quantité d'autres commentaires, qu'en vérité le Beth Amikdash, et surtout le troisième Beth Amikdash qui sera la maison de prière pour toute l'humanité, Jérusalem deviendra la capitale spirituelle de l'humanité tout entière, et le troisième temple ne sera pas seulement comme les deux premiers, le temple d'Israël, mais sera le temple de l'humanité tout entière comme les prophètes le disent, « Ou beiti bet tefila yikare le chol ha'amim » que ma maison, on parle du troisième temple, sera une maison de prière pour tous les peuples. Tous les peuples viendront à Jérusalem pour prier dans le troisième temple, et nos maîtres disent que le troisième temple, c'est le palais d'Hachem. C'est le palais d'Hachem. Ça veut dire que c'est là où il est présent, c'est là où il se dévoile. Mais pour construire ce palais, il faut des fondations.
Comme vous l'avez dit une fois, Bereshit, c'est Rosh Bait. Pour qu'il y ait une Bait, il faut qu'elle ait des fondations.
Voilà, Bereshit, c'est Rosh Bait aussi, c'est la tête de la maison. Et la maison, c'est bien sûr, c'est la maison d'Hachem. Mais on va bien sûr l'expliquer plus profondément dans quelques instants. Donc encore une fois, pour conclure ce que je pourrais appeler l'introduction de ce cours, le travail de l'homme, c'est de tout faire pour dévoiler Hachem. Et qu'est-ce que fait l'homme depuis qu'il existe? Il fait tout le contraire. Il n'existe que pour se dévoiler lui-même. Le culte de l'ego, et moi, et moi, et moi. Et toi, le bon Dieu, reste à la synagogue, reste à l'église et fous-moi la paix. Très bien. Donc, j'exagère un petit peu, mais c'est vrai. Bien. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Depuis la faute de Adam, finalement, l'homme n'existe que pour lui-même. Le fric, les plaisirs, les femmes, les hommes, les ci, les ça, etc. Ça vient le culte de l'ego. Et toute l'histoire humaine est fondée sur, finalement, l'absolu contraire de ce pourquoi l'homme a été créé. L'homme avait été créé pour être la fondation de la maison d'Hachem, et finalement, il a refusé d'être une fondation, il a voulu se mettre en évidence et laisser Hachem soit l'oublier complètement, soit le confiner à l'intérieur de la synagogue. Et ça fait des millénaires que Hachem, finalement, il a le corona et il est confiné dans toutes les synagogues depuis des millénaires. Voilà.
Yesod, c'est Yosef.
Oui, on va en parler justement. Yesod, c'est le sixième personnage qui est Yosef. On va en parler justement et on fera quelques allusions justement à ce qui s'est passé aussi à Méron, d'une manière beaucoup plus profonde, bien sûr. Donc, comme on le sait, chaque jour est par rapport à un des personnages bibliques connus. Premier jour, Abraham. Deuxième jour, Yitzhak. Sixième jour, Yosef. Donc, c'est très important aussi ce que dit notre ami, que l'homme est créé sous le signe de sixième jour, donc Yesod, mais aussi sous le signe de Yosef. Alors, qu'est-ce que c'est le Yesod? Pour entrer un peu plus dans les détails. Finalement, les Yesodot sont complètement cachés. On ne les voit pas. On sait que c'est eux qui soutiennent la maison, mais on ne les voit pas. Quand quelqu'un achète un appartement ou achète une maison, il demande à voir les Yesodot, il demande à voir les fondations, pas du tout. Ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le salon, la cuisine, les chambres, etc. Le jardin, si c'est une maison. Mais les Yesodot, bon, il sait qu'il y a des Yesodot, mais ça ne l'intéresse pas. Vous imaginez ce que je suis en train de vous dire? Ça veut dire que l'homme a été créé pour être en même temps celui qui soutient tout, mais qu'on ne voit pas. Ça veut dire, comme il est dit au sujet de Moshe, ou Moshe, Aya Anav Mikol Adam. C'était le plus humble des hommes. Au point qu'on ne sait même pas où il est enterré. La raison pour laquelle on ne sait pas où il est enterré, nos maîtres le révèlent. Vous savez pourquoi on ne sait pas où il est enterré? Parce que ça serait devenu sa tombe le plus haut lieu idolâtre du monde. Bien sûr. Donc Hachem savait très bien que si sa tombe était dévoilée, c'est pas seulement les juifs qui auraient été, le monde entier aurait été là-bas, les musulmans aussi, parce que les musulmans reconnaissent Moshe. Dans le Coran, on parle de Moshe, on l'appelle Moussa, mais ils ont beaucoup de vénération pour Moshe. Donc il y aurait eu les musulmans, il y aurait eu les juifs, j'imagine beaucoup de chrétiens aussi, puisqu'ils s'enracinent malgré tout dans ce qu'eux appellent l'Ancien Testament. Donc ça aurait été vraiment le haut lieu de culte de toute l'humanité qui serait devenu un centre idolâtre inimaginable. Et comme on va le voir dans quelques instants...
D'ailleurs, ils l'ont trouvé la tombe. Hein.
Oui.
Elle existe. Sur la route de Jéricho, sur la droite, c'est la tombe de Moshe.
Moussa. Oui, Moussa, ça m'étonnerait. Non, les Arabes disent que c'est la tombe de Moussa, mais... Non, Moussa. Il est enterré en Jordanie, il est enterré en Moab. La Torah dit clairement qu'il est enterré à Moab. Donc aujourd'hui, Moab, c'est la Jordanie. Bien sûr, il est enterré à Moab. Il n'est pas enterré dans la terre d'Israël. Il est enterré de l'autre côté du Jourdain. Il est enterré dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie, pas très loin de Aaron. Par contre, la tombe de Aaron, on la connaît. Il y en a qui y vont régulièrement. Mais par contre, la tombe de Moshe, on ne sait pas du tout où elle est. Et donc, et encore une fois, parce que sinon...
Et celle du roi David, parce qu'en fait, le roi David n'est pas enterré...
Il est enterré un peu plus loin que là où on va dans le caveau. Il est enterré un peu plus loin, et c'est difficile à expliquer, mais si vous sortez par derrière, d'accord, il y a une sorte de terrain vague comme ça, et c'est là-bas qu'il est enterré. Il est enterré à peu près à 100-150 mètres de l'endroit où ils ont fait le caveau. Mais il est enterré là-bas, le roi David. Il est enterré là-bas. Il est enterré en vérité dans la terre qui a été prise par l'église arménienne. Voilà, il y a une église arménienne là-bas, la très grande église là-bas. Et c'est dans ce terrain-là qu'est enterré le roi David. Et en vérité, ce qui s'est passé, c'est que quand on a voulu construire son tombeau, l'église arménienne a interdit de le faire dans son territoire. Donc ils l'ont fait un peu plus loin. Mais on sait que là où nous on prie, c'est pas là qu'il est enterré. Il est enterré à peu près 200 mètres un peu plus loin dans le terrain qui appartient à l'église arménienne. Voilà. Et donc, mais en tout cas, il n'est pas loin de là où on prie. Donc de toute façon, c'est plus... Comment ?
C'est l'église arménienne qui l'a.
Non, c'est l'église arménienne, je crois. La grande église qu'il y a à l'endroit du caveau de c'est l'arménien.
Et c'est juste sur...
Mais il faut savoir que les musulmans et les catholiques nous ont pris tous nos lieux saints. la tombe du les pères, le Harabaït, Shmuel Anavi et quantité d'autres. Ils nous ont pris tous nos lieux saints.
Ça veut dire rien qu'on puisse faire.
Bon, à part les tombes des tzadikim qui sont dans le nord, c'est vrai. Là, il y a ni mosquée ni église, mais en tous les cas à Jérusalem et dans beaucoup d'autres endroits, partout où il y avait une tombe d'un très très grand tzadik, s'est construite soit une mosquée, soit une église catholique. Absolument. Donc il nous reste plus grand chose. Shmuel Hanavi, c'est une mosquée. Les à Hebron, c'est une grande mosquée, avec une partie qui est une église aussi. Ça veut dire que quand les croisés sont arrivés à chasser les musulmans, ils ont construit, on voit, il y a une partie dans la pierre elle-même qui est une ancienne église. Ils n'ont pas détruit la mosquée, ils l'ont récupérée, mais ils ont aussi rajouté pour construire une église. Donc en vérité, le Hebron, c'est à la fois une petite église et une immense mosquée. Donc on revient maintenant à ce qu'on explique. Donc finalement, quel est le travail de l'homme? Le travail le plus difficile, ce pour quoi on a été créé, et on peut compter sur les 5 doigts de la main depuis le début de l'histoire humaine, ceux qui sont arrivés à le faire véritablement, et on va comprendre pourquoi. Ça veut dire à s'annuler complètement, être comme des fondations invisibles pour soutenir Hachem. Ça veut dire que tout tient grâce à l'homme, mais on ne le voit pas, parce qu'il est dans un état d'humilité et d'abnégation inimaginable. Ça, c'est le travail de l'homme. Et ça ne s'est encore jamais, 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 jamais réalisé. Alors pourquoi ça ne s'est pas réalisé? Pourquoi? Bon, je suis très inquiet pour ce que les hommes vont entendre aujourd'hui, mais pour les femmes aussi, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus vraiment de femmes dans ce monde. Mais regardez, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire. Comment qu'on fait des fondations? On creuse d'abord un grand trou, d'accord? Et après, on met des pilots qui vont soutenir la maison, d'accord? Les pilots, ils sont droits, d'accord? Et le réceptacle, il est creux. Maintenant, la maison, elle tient grâce à quoi? Véritablement. Elle tient grâce au trou qu'on a fait. Parce que si tu ne fais pas le trou, tu ne peux en aucun cas mettre les piliers qui vont soutenir la maison. D'accord? Comment s'appelle en hébreu biblique la féminité? Noukva, Nekev, un trou. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là que le sixième jour, c'est pas que l'homme qui a été créé. La Torah le dit clairement. Zachar venekeva bara'a otam. Il a créé le sixième jour, le Zachar, la dimension masculine, et la dimension masculine, et la dimension féminine, qui les deux sont sous le signe du Yesod. C'est-à-dire les fondations. Mais quelle est la partie des fondations la plus importante? C'est la féminité, bien sûr. La preuve, c'est que supposons même qu'on ne met pas des piliers dans le trou, on peut malgré tout installer la maison en la faisant descendre à l'intérieur du trou et en mettant du sable en dessous. Mais quoi qu'il en soit, ce qui soutient véritablement, c'est le Keli. D'ailleurs, nos maîtres disent une chose absolument incroyable. « En Aïcha koretet brit, el alemiche ose ota Keli ». La femme ne s'unit, dans le sens de tous les niveaux, ça veut dire ne respecte et ne s'unit, qu'à l'homme qui comprend quel est son réceptacle. En Aïcha koretet brit, el alemiche ose ota Keli. Ça veut dire que si la femme sent que tu comprends quel est ton réceptacle, et on va expliquer ce que ça veut dire, à ce moment-là, elle te donne tout. Mais si tu ne la considères pas comme ton réceptacle, ça veut dire l'essentiel du Yesod, à ce moment-là, elle ne te donnera rien. Donc le Kli, c'est la femme. Et d'ailleurs, comment qu'on appelle une fiancée? Kala. Kala, ça vient du mot Kli, réceptacle. Kala. Et donc on revient maintenant à cette notion-là. Donc on creuse un grand trou. D'ailleurs, ils sont en train de construire une maison là dans Mekor Chaim. Regardez le trou immense qu'ils sont en train de creuser. À chaque fois qu'on crée une maison, on crée un grand trou. Ça, c'est la dimension féminine, Noukva, Nekev, qui veut dire réceptacle, qui veut dire on fait un grand trou dans le sol. Et après, on met les piliers, la dimension masculine. La dimension masculine est droite. Et donc, tout le monde comprend le remez aussi dans l'union entre l'homme et la femme. Mais quoi qu'il en soit au niveau de la construction, la femme est donc le réceptacle sans lequel rien ne peut être construit. Et la première chose qu'on construit, c'est d'abord le réceptacle. Le réceptacle précède l'homme. Ça veut dire que la dimension féminine est créée avant la dimension masculine. Mais le grand problème de la dimension féminine, c'est qu'elle est, dans son essence première, elle est complètement cachée. Au point que l'homme n'arrive pas véritablement à comprendre qui elle est et combien, d'une certaine manière, il lui doit tout. J'ai déjà rapporté cet exemple des milliers de fois où on nous dit que « En abracha metsuya betor beito shel ha'adam ela bezchut ishto » La bénédiction ne se trouve dans la maison d'un homme que par le mérite de la femme. Alors, nous les mecs, on a du mal à comprendre ça. Pourquoi ? Parce qu'on travaille, c'est nous qui ramenons les 5 ou 6 000 ou 7 000 ou 8 000 ou 10 000 ou 11 000 ou 20 000 ou 30 000 euros par mois. Et je parle de la femme, bon, je ne parle pas de la femme moderne bien sûr, mais la femme, bon, elle est à la maison avec les enfants. D'accord ? Et comme j'ai expliqué déjà des milliards de fois, il y a des choses dont je ne me lasserai jamais de le répéter. Normalement, un homme, il rentre. Si sa femme ne travaille pas, aujourd'hui tout a changé, mais si sa femme ne travaille pas, il rentre avec l'enveloppe dans laquelle il y a 10 000 euros, il les redonne à sa femme, lui dit « Merci ma chérie, est-ce que je pourrais avoir un peu d'argent de poche ?» Normalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous connaissez beaucoup d'hommes qui fonctionnent comme ça ? C'est moi le mec. Attends, c'est moi qui ai ramené l'argent. Pourtant, nos maîtres disent, des millénaires avant la révolution féminine, En abracha metsuya betor beito shel adam ela bezchut ishto. Toute ta bénédiction, ça vient par le mérite de ta femme. Pourquoi ? Parce que la femme, elle est comme ce trou qui est l'essentiel des fondations. Ça veut dire que sans elle, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de fondation, il n'y a rien. Seulement le grand problème de la dimension féminine, c'est qu'elle dégage des énergies inimaginables, mais elles sont voilées, elles sont cachées. L'homme ne le voit pas. Parce que l'homme, il voit qu'il est dans son bureau et qu'il travaille, qu'il ramène 10 000 euros par mois. Mais comment il peut imaginer que sa réussite vient des énergies de bénédiction que sa femme lui envoie ? Il ne les voit pas, il ne les ressent pas, il ne le sait pas. Voilà. Comme d'une certaine manière, on pourrait presque oser dire que quand la maison, elle repose, elle repose sur les piliers. Personne ne va dire elle repose sur le trou. Mais d'un autre côté, sans le trou, il n'y a pas les piliers. Donc, c'est quand même le trou qui fait que les fondations peuvent exister. Et donc, la femme dégage des énergies inimaginables qui font que si l'homme réussit, j'ai pris l'exemple uniquement de l'exemple matériel, mais en fait, c'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines, c'est pour ça que nos maîtres nous disent « Adam she'eno isha, eno Adam ». Un homme qui n'a pas de femme n'est pas un homme. C'est une créature, c'est une chose, mais ce n'est pas un homme. Pourquoi ? Parce que qui fait de lui un homme, c'est la femme. Alors maintenant, on va comprendre encore mieux qui est le vrai Yesod en vérité. Ou plutôt, qui est la véritable création d'Hachem dans ce monde ? L'homme ou la femme ?
La femme.
La femme, bien sûr. Parce qu'elle, elle est véritablement Yesod. Elle est complètement cachée. Même au niveau des énergies qu'elle déverse dans son mari, c'est complètement caché. Vous connaissez beaucoup d'hommes qui sont capables de donner les 10 000 euros à leur femme et de dire « donne-moi un peu d'argent de poche ». Attends, tu es toute la journée à la maison avec les gosses, c'est moi qui travaille, c'est pas toi. Mais parce que l'homme ne perçoit pas l'invisible, il ne perçoit pas les fondations. Comme nous, quand on achète une maison, on ne demande pas au vendeur « je voudrais voir les fondations ». On s'en fout des fondations. Comme on s'en fout de la femme. D'accord. Parce que l'homme n'a pas cette sensibilité de comprendre que l'essentiel de la vie authentique, c'est ce qui est caché, pas ce qui est visible. Maintenant, vous comprenez pourquoi le Nahash, il a fait tomber la femme ? Parce qu'il a voulu faire tomber la maison d'Hachem. Et il sait très bien que la femme, c'est l'essentiel des fondations. Donc en faisant tomber la femme, il n'y a plus de maison d'Hachem. Et ça fait des millénaires que ça dure. Puisque elle, elle est le réceptacle qui, sur lequel la maison repose. Et maintenant, comme nos maîtres expliquent, le Yetzer Hara et le Yetzer Hatov sont toujours à l'extrême opposé. Ça veut dire, le Yetzer Hara fait tout pour éloigner l'être humain à l'extrême opposé de là où il devrait être dans le bien. La véritable essence et la véritable nature de la femme, c'est quoi? C'est d'agir de la manière la plus cachée. Ce qu'on appelle en français la pudeur. Qu'est-ce que le Nahash, il a fait de la femme? C'est l'être, aujourd'hui dans le monde moderne, et toujours utilisé par l'homme de cette manière-là, la plus dénudée, la plus visible, la plus dévoilée, à l'extrême opposé de sa véritable dimension. La femme était censée représenter les fondations du monde, plus encore que l'homme, et qu'est-ce qu'a fait le Nahash? Le Nahash l'a transformée, l'a amenée à l'extrême opposé de ce qu'elle aurait dû être, pour qu'elle ne puisse plus du tout être des fondations, puisque quand tu sors dans la rue, qu'est-ce que tu vois, surtout en été? Tu ne vois que des femmes à moitié nues. Donc l'extrême absolu contraire de ce qu'est l'essence véritable de la femme. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de fondation et pour qu'il n'y ait pas de maison d'Hachem. Oui. Le rôle de l'homme est résumé par nos maîtres d'une manière extraordinaire. Je l'ai souvent rapporté aussi. « Adam chayav le'ov et ishto ke gufo, ou le chabda yoter me gufo. » Traduction en française d'après le sens. « Un homme doit aimer sa femme comme lui-même et la respecter encore plus que lui-même. » Ça veut dire quoi concrètement? Je vais expliquer d'après le pshat et après d'après le sod. D'après le pshat, il y a un conflit entre l'homme et la femme, d'accord? Ok, tu as raison ma chérie, ça va, allez on fait la paix. Même si je sais qu'elle a tort. Pourquoi? Je dois la respecter plus que ce que je me respecte moi-même. Ça veut dire quoi? Concrètement parlant, l'homme doit faire comprendre à sa femme qu'il est conscient que toute la réussite de la maison vient d'elle. Non, au contraire, il est actif dans cette reconnaissance qu'il renforce de plus en plus au fur et à mesure que la réussite du couple et de la famille est de plus en plus grande. Au contraire, ça ne fait qu'évoluer. Ça veut dire que la vraie dimension de l'homme, il y en a un demi par génération, des hommes comme ça, la vraie dimension de l'homme, c'est de toujours faire sentir à sa femme que sans toi, je n'existe pas. C'est ce que nos maîtres nous disent, un homme qui n'est pas marié n'est pas un homme, il n'existe pas. Donc c'est un travail permanent, et un travail qui n'est pas facile, surtout dans le contexte, on pourrait dire, historique jusqu'à la révolution moderne, où les femmes aujourd'hui travaillent et sont indépendantes, mais jusqu'à il y a encore 100 ans, une femme qui est toute la journée à la maison et l'homme qui est toute la journée dehors et celui qui se casse la tête pour nourrir sa famille, comment voulez-vous qu'un homme reconnaisse que sans son épouse il n'a rien? C'est très difficile, c'est impossible. Parce que lui, il vit dans un monde visible et il ne voit pas toutes ces énergies que sa femme lui envoie. Donc, c'est ça en vérité. Le fait que l'homme doit être le Yesod, et le vrai Yesod, c'est sa femme, de rentrer dans le monde caché, sortir du monde visible et comprendre que l'essentiel de la réalité, c'est le monde caché. Et dans le monde caché, la plus grande de toutes les forces, c'est la force féminine et non la force masculine. Maintenant, on va aller plus loin, mes amis. Regardez. Donc, j'ai expliqué, parce que je vais me resservir cette explication, que comment le Nahash, bon, les forces du mal, ont fait tomber la femme, comment le Nahash a fait tomber les fondations, l'homme et la femme, surtout la femme, et donc, impossible de construire la maison d'Hachem dans ce monde. Si, on a construit des églises, on a construit des synagogues, mais ce n'est pas la maison d'Hachem, ça. L'endroit où le bon Dieu se sent le plus étouffé, c'est où? C'est dans une synagogue. Parce que où le bon Dieu il voudrait être? Dehors, dans le monde. C'est là qu'il veut être. Il veut être dans une société, il veut être dans une high-tech, il veut être à l'armée, il veut être partout où les gens sont corrompus, c'est là-bas qu'il veut être. Mais à la synagogue, quand je rentre à la synagogue, je mets une kippa sur la tête. Mais quand je ressors et je rentre dans mon bureau, je suis comme tout le monde. Hein. Allez, je te crève. Hein. D'accord. Donc, alors évidemment que Hachem, quand il nous voit rentrer à la synagogue, il a envie de nous étouffer. Pourquoi? Parce qu'il dit, mais arrêtez d'être hypocrite. Je sais ce que vous faites dans votre bureau. Alors arrêtez de faire le malin à la synagogue. Arrêtez. Parce que malheureusement, on sait comment sont les hommes, que ce soit la synagogue, l'église ou la mosquée, c'est pareil. Le lieu de culte est un lieu de mensonge. Parce qu'on fait croire au bon Dieu qu'on l'aime, mais en vérité, on se fout royalement de lui. D'accord? Reste à la synagogue et rentre pas dans mon bureau, parce que dans mon bureau, si tu savais ce que je fais, donc mieux vaut que tu rentres pas. Voilà. Mais j'ai une belle kippa sur la tête, hein, t'inquiète pas. Très bien, j'ai une belle kippa sur la tête. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, Hachem, ce qu'il veut, c'est être dans ce monde. C'est pour ça que son royaume, il est à Jérusalem, qui est la ville de la royauté, justement. Pas seulement la royauté divine, la royauté humaine, le roi David. Comme pour dire, moi, je veux être là où il y a les dirigeants. D'accord? Vous imaginez qu'on va laisser rentrer le bon Dieu à la Knesset? Mais attends, les premiers qui vont refuser, c'est les partis religieux. Et non, qu'est-ce que j'ai dit? Non, au moins, ça va pas du tout enregistrer ça. Et donc, évidemment, c'est les premiers qui vont refuser. Attends, reste à la synagogue, ici, on est là pour le fric. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Mais arrête, Haïm. Et donc, voilà. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Très bien. On continue. Ça va aller beaucoup plus loin. Comment qu'est appelée la femme par rapport à l'homme? Ezer Kenegdo. Rachetevot, Aïn Kaf. Aïn Kaf, Gematria, 70 et 20, 90. 90, c'est la gématria de quelle lettre? Tzadik. Oh là! Maintenant, je comprends pourquoi nos maîtres nous disent que la Géoula viendra par le srout Nashim Tzatkaniyot. Une femme, c'est pas un tzadik. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un tzadik. Le Baal Shem Tov, c'est un tzadik. Rabbi Nachman, c'est un tzadik. Le Rabbi de Lubavitch, c'est un tzadik. Une femme, c'est une bonne cuisinière, une bonne maman, une bonne épouse. Mais je veux dire, elle n'est pas tzadik. Pourquoi nos maîtres utilisent cette expression « Nashim Tzatkaniyot » ? Et là, on va comprendre quelque chose de très dur. En vérité, le vrai tzadik, c'est la femme. La vraie femme, s'il y en a encore. La vraie. Pourquoi ? Comment est appelé le tzadik par nos prophètes ? Tzadik, Yesod Olam. Le tzadik, c'est les fondations du monde. Et c'est quoi les fondations ? C'est ce qu'on vient d'expliquer. Quelque chose qui est complètement caché. D'accord? Alors, ça, je ne vais pas enregistrer ce que je vais dire. Alors, je ferme pendant l'enregistrement. D'accord? Mais dites-moi, c'est quoi un vrai tzaddik? Un vrai de vrai. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on va visiter, c'est ceux à qui on demande des brachot? Non. Nos maîtres nous disent, dans chaque génération, il y a 36 tzaddikim cachés, que personne ne voit, que personne ne connaît, et c'est eux qui maintiennent le monde. 36 tzadikim nistarim, qui ne se montrent pas, qui ne se dévoilent pas, qu'on ne connaît pas. Pourquoi? Ah, pourquoi 36? Parce que c'est l'Amed Vav. Et l'Amed, c'est le chiffre de la Malchut, de la royauté d'Hachem, comme il est dit, « Amalchut niknet beshloshim ma'alot » La malchoute se dévoile grâce à 30 qualités, mais je ne vais pas expliquer maintenant. Et le vav fait allusion justement au yesod, le sixième jour, yesod. L'union entre yesod et malchoute. Ça veut dire que le tzaddik, il dit à Hachem, je suis là pour que tu te dévoiles. Mais pour que tu te dévoiles comme une maison, il faut que moi je sois complètement caché. Sortez les mouchoirs, c'est trop beau ce que je dis. Vous rendez compte à quel point on vit, mais dans un fantasme, dans une illusion, dans un mensonge inimaginable depuis des millénaires et des millénaires et des millénaires. Le vrai tzaddik niznomet, c'est le tzaddik nistar, celui qui est dans notre génération, mais que personne ne le connaît.
Et ça peut être des hommes et des femmes.
Ça peut être des hommes et des femmes, je vais en parler de ça dans quelques instants. Vous avez deviné quelque chose de très important. Et pourquoi c'est le vrai tzadik nistar? Mais comme la femme. Elle est complètement nistérée, puisque c'est elle qui envoie la bracha à son mari, et son mari le voit. C'est elle qui fait de lui un homme, son mari le voit. Non, je suis devenu un homme parce que j'ai de l'argent, parce que je fais du sport, parce que je suis en bonne santé. D'accord? Non. Comment il va reconnaître que tout ce qu'il est, c'est elle qui l'a construit? Donc la femme est un tzadik nistar. C'est pour ça que nos maîtres disent tzadkaniyot, tzadik nistar. Ezer kenegdo, gematria 90, tzadik. Tzadik. Et pourquoi le tzadik est appelé tzadik yesod olam? Ça fait allusion, comme vous avez dit, ça fait allusion à la femme. La femme est le véritable tzadik de ce monde, la femme authentique, parce qu'elle dégage des énergies cachées qui soutiennent le monde. Et malheureusement, l'ego, qui lui ne croit que ce qu'il voit, ne peut pas accepter que c'est ces énergies cachées qui soutiennent la création tout entière.
La femme est l'avenir de l'homme.
La femme est l'avenir de l'homme, bien sûr. Bien sûr. Absolument. Ben, c'est marqué clairement, entre autres, le roi Salomon. La femme est appelée la couronne de l'homme. D'accord? Ça veut dire que quand un jour l'homme sera roi, ça sera grâce à qui? Grâce à la femme, puisque c'est elle qui posera la couronne sur sa tête. Donc on vit dans un monde complètement, complètement méboulbal, complètement faux. La femme au foyer, la femme à la cuisine, voilà.
Et ces 38 tzadikim cachés, ils sont partout dans le monde?
Alors la Gemara dit que la majorité sont en Israël et les autres éparpillés partout là où les juifs sont en galoute. Mais la majorité est toujours en Israël. Ça veut dire que dans toutes les générations, il y avait, sur les 36, on va dire, il y avait 20 peut-être, qui étaient en Israël, mais cachés complètement, et le reste, un en Ukraine, un au Maroc, un, etc., etc. Mais les 36 tzadikim cachés, nos maîtres nous disent, c'est eux qui soutiennent l'humanité tout entière, pas seulement le peuple juif, c'est grâce à eux qu'on a pu traverser l'histoire, mais personne ne sait qui ils sont. Personne ne sait qui ils sont. Maintenant, vous allez comprendre quelque chose d'absolument extraordinaire. Machiav ben Yosef et Machiav ben David. Machiav ben David, on va le voir. D'accord? Même son âne, on le verra. D'accord? On ne sait pas s'il a une chasse Sfarad ou Ashkenaz, ça, on verra déjà. Mais en tous les cas, on le verra. Très bien. Mais pourquoi on ne voit pas Machiav ben Yosef?
Parce qu'il est caché.
Voilà. Parce qu'il est Yesod Olam. Parce qu'il est caché. Pourquoi, dans toute notre tradition, on sait qu'on verra Machiav ben David, mais on ne verra pas Machiav ben Yosef? Parce que Machiav ben Yosef représente la dimension féminine, et Machiav ben David représente la dimension masculine. Mais le problème, c'est que Yosef a fait une très grande faute, quand il était jeune, quand il avait 17 ans, que nous supportons jusqu'à aujourd'hui. Quel a été le fond de la dispute entre Yosef et David? C'est que d'une certaine manière, Yosef a refusé d'être caché. Dans ses rêves, qu'est-ce qu'il a vu? Vous vous prosternez tous devant moi. Si je suis un tzadik caché, si je suis vraiment les fondations du monde, comment vous pouvez vous prosterner devant moi puisque vous ne savez pas qui je suis? Et il a dit, je vous vois, vous êtes les étoiles qui vous prosternez devant moi, ou vous êtes les épis de blé qui vous prosternez devant moi, et moi je suis au milieu. C'est-à-dire, quelle a été la faute de Yosef? C'est que Yosef, à 17 ans, il est tombé, d'une certaine manière, dans le problème de l'ego. Bon, ne soyons pas choqués. Il n'y a pas un homme qui ne tombe pas dans le problème de l'ego. Même David, quand il a vu Bathsheba, s'il avait attendu, il aurait dit, parce qu'il a reconnu qu'elle était son vrai zivoug, mais elle était mariée. C'est vrai, il n'a pas été avec une femme mariée, puisque David avait institué, comme on le sait, que chaque homme qui partait à la guerre devait donner un guet à sa femme, de manière à ce que si on ne le retrouve pas, elle puisse se remarier. Malheureusement, l'armée israélienne ne fait pas ça, et c'est ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, il y a énormément de femmes qui n'ont pas pu se remarier, comme la femme de Ron Arad, qui pendant 40 ans n'a pas pu se remarier. D'accord? Et en plus, le fait que le rabbinat n'a pas imposé ça, bon, la pauvre, c'est sûr qu'elle a été avec des hommes. Mais peut-être aussi dans la période où son mari n'était pas encore mort. Donc ça veut dire que le rabbinat a une très très grande responsabilité, alors que le Talmud nous dit que le roi David avait imposé chaque homme marié qui part à la guerre, tu donnes un guet à ta femme. Quand tu reviens, tu la réépouses. Mais si on ne te trouve pas, au moins elle peut se remarier. Combien de dizaines de femmes, depuis la création de l'État d'Israël, sont restées seules toute leur vie, enfin seules, n'ont pas pu se remarier parce qu'on ne sait pas si vraiment leur mari est mort ou non. D'accord ? Comment ? Agounot, voilà. Donc David avait imposé, donc Bathsheba avait reçu un guet. Donc sur le plan purement halakhique, elle n'était plus mariée. Mais sur le plan moral, c'est sûr que David a fait une faute incroyable. Parce qu'elle, elle attendait le retour de son mari, évidemment. Elle ne voulait pas qu'il meure à la guerre. Mais nos maîtres disent, si David, qui a compris, parce qu'elle ne le savait pas, que c'était son véritable zivoug, il aurait dû attendre que Hachem s'arrange pour que le mari ne revienne pas, puisqu'il est à la guerre. Mais comme il s'est précipité à aller avec elle quand le mari était encore vivant, eh bien, il a fait une faute d'ego inimaginable. Il a été trop vite. Donc, il faut qu'on arrête une fois de diviniser l'homme. Aussi grand soit un homme, le roi David, Yosef, il y a des moments, comme le dit d'ailleurs le roi Salomon, « Shiva yipol tzadik vekam », sept fois tombe le juste jusqu'à ce qu'il se relève. Même le juste tombe.
C'est ce qui fait la beauté du...
Comment ?
C'est ce qui fait la beauté du judaïsme. C'est pour ça qu'on sent vraiment qu'il y a une réalité. Qu'il y a...
Mais oui, parce que nous, il y a...
On n'a pas de...
Oui, on refuse totalement de diviniser l'homme. Mais ça a été la faute de Yosef. C'est que Yosef, d'une certaine manière, qui était censé représenter la dimension féminine, c'est-à-dire les fondations complètement cachées, qui soutiennent tout mais personne ne le voit, lui a voulu se mettre en évidence et il a créé, d'une certaine manière, l'extrême absolu contraire de ce qu'est le tzaddik. Le tzaddik doit être caché, il doit être humble et il a voulu se mettre en évidence pour que tout le monde se prosterne devant lui. Vous voyez ? Il y a eu dans notre génération, vous savez qu'il y a un nouveau Zohar qui est sorti avec un nouveau commentaire qu'on appelle le Matok Midvash. Matok Midvash, doux comme le miel. Et ce Rav-là qui a écrit ce commentaire, à mes yeux, et on est des centaines de milliers à le dire, c'est le plus grand commentaire du Zohar jamais écrit sur Terre. Et c'est vraiment avec ce Zohar que le Mashiach libérera le monde, avec son commentaire à lui. C'était un homme qui était un tzaddik inimaginable, qui était fréquenté par les plus grandes tzaddikim de la génération. Personne ne le savait. Lui était complètement caché, le Rav Frisch. Le Rav Frisch, d'ailleurs il a été déporté pendant la guerre, il était à Buchenwald. Et il s'en est sorti d'une manière complètement miraculeuse. Il a perdu sa femme, ses enfants, il s'est remarié après la guerre. Il vivait à Mehacharim. Mais quand tu le croisais dans la rue, tu avais envie de lui donner la tzedaka. Vraiment, un type complètement caché. Et après sa mort, on a dévoilé le Zohar qu'il avait écrit toute sa vie. Et aujourd'hui, le Zohar, il est, ce Zohar-là, il est partout, partout, partout. Matok Midvash. On ne trouve que ce Zohar aujourd'hui. Il a vécu jusqu'à l'âge de 90 et quelques, complètement caché toute sa vie. La dimension féminine authentique, Yesod Olam. Yosef, lui, il a fait exactement le contraire de ce pour quoi il avait été créé. C'est ce qui lui a valu de descendre en Égypte, toutes les épreuves qu'il a eues, 12 ans de prison, dans une prison égyptienne il y a 4000 ans, vous imaginez, etc. Déjà aujourd'hui, combien de temps il a vécu, Moursi, dans la prison égyptienne ? 1 an et demi, il a tenu. Très bien, donc imaginez il y a 4000 ans. D'accord, ben, c'est impossible de tenir dans une prison égyptienne ou syrienne. Il te tue tout de suite. Comment ?
Ah oui, mais après.
Mais parce qu'après, il a fait tchouva, et Shiva Yepol Tzadik. Évidemment qu'il est devenu un tzadik authentique, évidemment. Mais ce que la Torah nous apprend, c'est que arrêtons de croire que l'homme, il est tzadik dès sa naissance. Non, ça se construit. Et il l'a compris, ça. Mais il a reconnu ses fautes, il a reconnu ses erreurs. Parce que justement, il sentait qu'il avait en lui une dimension inimaginable et il a voulu tout de suite se mettre en évidence. Qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre, mes amis ? C'est qu'en vérité, depuis la faute de Yosef HaTzadik, Les vrais tzadikim ne sont pas à leur place. Ils se mettent tous en évidence. Ils ont tous derrière eux des mouvements inimaginables de gens qui les adulent, d'accord ? Le rabbi a dit, le rabbi a dit, le tzadik a dit, le tzadik a dit. Alors qu'un vrai tzadik, il devrait n'avoir aucun mouvement, aucun élève, ne pas être connu et être complètement caché. D'accord ? Je vais dire quelque chose de très grave, de très très grave. D'accord ? Et je demande pardon à Hachem, et surtout je demande pardon à Rabbi Shimon Bar Yochai, qui lui n'est absolument pas responsable de ce que je vais dire. Combien de personnes vont sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai à Meron ? Entre 1,5 million et 2 millions. Vous avez déjà vu 2 millions de personnes en une journée qui vont au Kotel ? À l'endroit où est la Shrina ? À l'endroit où est Hachem ? Je vous pose une question qui me rend fou, qui me déchire, qui me rend fou, qui me... Pourquoi sur la tombe d'un tzaddik, il y a 1 million de fois plus de monde qu'à l'endroit où disent nos maîtres dans le Zohar, Lo zaza shrinta me kotel ha-ma'aravi me as chorban bet hamikdash. La shrina n'a jamais bougé du kotel ha-ma'aravi depuis la destruction du temple. Combien qu'on arrive au kotel, allez, même pendant les slichot, 5 000, 10 000, 15 000. Comment ? Même, mais venez bien pas 500 000. À Meron, jusqu'à 2 millions en 24 heures. 1 million et demi sûr. Je comprends pas. Pourquoi le tzaddik serait plus honoré que Hachem lui-même ? Pourquoi ? Eh bien, c'est la faute de Yosef. C'est la faute de Yosef qui est perpétuée jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez qu'autour de chaque tzaddik se crée un mouvement. Des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de personnes, le tzaddik a dit. C'est quoi le tzaddik a dit ? Hachem a dit. C'est quoi le tzaddik a dit ?
Et donc comment on change ça ?
Comment on change ça ? Comment on change ça ? On va y arriver. D'accord ? Ça veut dire comment on change ça ? Je vais vous expliquer. C'est que l'épouse, elle prend son mari, elle lui dit, d'accord, t'arrêtes ou je te cogne ? Voilà. T'arrêtes ou je te cogne ? Il y en a marre.
C'est la même chose avec Rabbi Nachman en Ukraine.
Mais bien sûr, c'est la même chose. 600 000 personnes. 600 000 personnes. Mais oui, 600 000 personnes qui vont à Ouman, en Ukraine, dans la plus grande pourriture, dans le pays le plus pourri de la Terre. Tous les gardiens et tous les tueurs de juifs dans les camps de concentration étaient des Ukrainiens. Tous. D'accord ? Voilà. Tous ces juifs qui vont en Ukraine apportent un argent fou à l'Ukraine, alors que c'est eux qui ont massacré 9 millions de juifs. Et j'aimerais bien, moi, savoir s'il y a 600 000 juifs qui vont au Kotel. Mais vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Mais tout a commencé avec le fait que le tzaddik a refusé de rester caché, Yosef, comme d'une certaine manière la femme aujourd'hui qui refuse d'être pudique. C'est la même faute, c'est le même chemin. D'accord ? Quand je dis pudique, je ne dis pas être voilé, qu'on voit que les yeux. Au contraire, vous savez ce que nos maîtres nous disent. Et c'est assez contradictoire, mais justement parce qu'ils parlent de la vraie pudeur. Nos maîtres disent, d'accord ? Que la belle femme n'a été créée que pour les Talmidei Chachamim. Comment ils osent dire une chose pareille ? La belle femme a été créée pour les Talmidei Chachamim, pour les hommes de Torah. Mais un homme de Torah, qu'est-ce qu'il en a à faire d'une belle femme ? Non. C'est pour nous faire comprendre que la pudeur, c'est pas que je me cache complètement. D'accord ? Mais je montre pas ce qui est interdit de montrer. Mon visage, j'ai le droit de le montrer. D'accord ? Eh bien, nos maîtres nous disent, excusez-moi mesdames, n'écoutez pas ce que je vais dire, que toutes les femmes étaient comme des guenons devant Sarah, et Sarah était comme une guenon devant Chava. Ça veut dire que Adam avait la plus belle femme du monde. Parce que c'était au départ un Talmid Chacham. C'était un homme de Torah. Et nos maîtres nous disent que la femme de Rabbi Meir Bruria, d'accord ? Et les hommes devaient se forcer à ne pas la regarder tellement elle était belle. La femme de Rabbi Akiva, Rachel, paraît-il, elle était splendide. Pourquoi ? pour nous faire comprendre que chez nous, la pudeur, c'est pas cache-toi, on veut pas te voir. Non, chas v'shalom. La pudeur, c'est ne montre pas les parties de ton corps qui ne sont que pour ton mari. Un point, c'est tout. Mais là où tu peux montrer que tu sois la plus belle, c'est pas un problème. Ton visage, etc.
C'était aussi le problème aussi des Hébreux enfin, pendant la sortie d'Égypte, c'est-à-dire la place de Moshé et la place d'Hachem. En fait, considérer qui était à l'origine des miracles. Et c'est ce qu'on a reproché à Moshé au Meribah, de bon, à son niveau, nous, qu'est-ce qu'on est, mais lui, à son niveau, de taper au lieu de parler, c'est donner un pouvoir surnaturel. Finalement.
Absolument. Et d'ailleurs, nos maîtres disent, pour confirmer l'extraordinaire remarque que vous faites, que c'est la raison pour laquelle il est répété 50 fois dans la Torah, « Je suis Hachem qui t'est sorti d'Égypte », parce que tout Israël pensait que c'est Moshé qui les a sortis d'Égypte. D'accord. Comme l'exemple fabuleux que je rapporte constamment, d'accord, vous apportez un travailleur chez vous à la maison, il vous fait des travaux fabuleux, et quand vous rentrez le soir à la maison, vous voyez, oh là 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 là, où est ton marteau, où est ta scie, où est ton pinceau, je veux les embrasser. L'autre, il lui dit, mais attends, ça va pas, c'est moi qui ai travaillé, c'est pas le marteau. Ah mais le marteau. Voilà. Moshé, ce n'est qu'un instrument entre les mains d'Hachem. Comme le Mashiach, c'est qu'un instrument entre les mains d'Hachem. Mais le véritable acteur, c'est Hachem. Il a des instruments fabuleux, comme Moshe, comme Rabbi Akiva, comme le Mashiach, comme David Ameler, c'est des instruments de folie. Mais ça reste des instruments. Et malheureusement, quelle est la mission, mes amis, du Ham Israël, de dévoiler la royauté d'Hachem? Et dans quelle faute le Ham Israël est tombé? Peut-être plus encore que n'importe quel autre peuple, dans le culte de l'homme. Le culte de l'homme. C'est toujours zélé ou matzé. Là où on a une grande qualité, on nous fait tomber dans le défaut qui est à l'extrême opposé. Le Rav a dit, le Rabbi a dit, le Tzadik a dit. Voilà. On ne se pose plus de questions. C'est comme ça. Ça veut dire que finalement, tout a commencé, encore une fois, avec la faute de Yosef, qui n'a pas voulu rester caché, parce qu'il voulait que ses qualités soient mises en évidence, exactement de la même manière qu'une belle femme ne veut pas se couvrir, parce que finalement, elle ressent le besoin d'être regardée, puisqu'elle est belle. Eh bien, sur le plan physique, c'est exactement la faute des tzadikim, de ne pas supporter de rester caché, que personne ne les connaît, et de se mettre en évidence. Et c'est ce qu'on appelle le culte de l'homme.
Et on dit que le Mashiach va faire perdre tes cheveux au tzadikim.
Et c'est pour ça qu'on dit que le Mashiach fera faire. Et c'est pour ça qu'il viendra sur un âne et pas dans une Rolls Royce. Il viendra sur un âne. Parce que pour bien nous faire comprendre qu'il est rien.
Mais je me demande comment il va faire un truc pareil.
Comment
faire un truc pareil.
Alors, justement, c'est la dernière partie de mon cours, oui. Eh bien, c'est la dernière partie de mon cours, cher ami. Merci pour votre question qui me permet. C'était vraiment la dernière partie de mon cours. Mes amis, comment il va agir le Mashiach s'il est caché, s'il n'est pas connu, etc. Forcément, il va se dévoiler. D'accord. Mais, d'accord. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Et je l'ai déjà dit et je le redis. D'accord. Le Mashiach, c'est pas l'homme, c'est sa femme. Je le répète. Le Mashiach sera sa femme. Vous savez ce que le Ari HaKadosh révèle? Qui est le couple Mashiach et son épouse? C'est Adam et Chava qui reviennent pour réparer la faute qu'ils ont faite. C'est-à-dire que l'épouse du Mashiach sera Chava, et le Mashiach lui-même, c'est Adam. D'ailleurs, dans le mot Adam, vous avez Aleph Adam, Dalet David, même Mashiach. Ça veut dire que Adam, c'est en vérité trois Gilgoulim. Adam est revenu dans David et David revient dans Mashiach, mais au départ, c'est Adam. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire, d'accord? Évidemment qu'il va se dévoiler le Mashiach, mais écoutez-moi bien. À chaque fois que tous les idiots sur Terre vont venir, y compris chez nous, vont dire « Mashiach,
Mashiach, Mashiach, Mashiach.
Qu'est-ce qu'il dira le Mashiach? Arrêtez, bande d'idiots, d'accord? Toutes mes forces, c'est pas de moi, c'est de mon épouse. Où elle est? Où elle est? Où elle est? Où elle est? Comme les anges ont demandé à Abraham. Et où elle est Sarah? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Elle est dans la tente, elle veut pas se montrer. Ah, j'ai envie de pleurer quand je dis ça, parce que c'est tellement fort, c'est tellement beau, c'est tellement inimaginable. Ça veut dire qu'en vérité, que les anges comprennent que tout ce qu'Abraham est, c'est Sarah. Ils disent, mais où elle est? On veut la voir. Laissez-la tranquille, elle est dans la tente. Elle sait tenir sa place. C'est une source d'énergie cachée. Elle n'a pas envie de se montrer. Mais moi, ce que je suis, c'est elle. Et bien, c'est ce qui va se passer avec le Mashiach. C'est sûr que le Mashiach va se dévoiler. Mais en vérité, le vrai Mashiach, c'est toutes les énergies cachées qu'il recevra de son épouse. Comme c'était d'ailleurs le cas entre Adam et Chava. Pourquoi Chava a été créée? Qu'est-ce que dit la Torah? Lotov eyot Adam levado. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais ça c'est le pshat, c'est la traduction grecque. Le mot tov, comme disent nos maîtres, quand on le voit pour la première fois dans la Torah, quand la lumière a été créée. Donc le mot tov signifie lumière, d'après le sens profond. Il n'est pas tov que l'homme soit seul, un homme sans femme n'a aucune lumière. Ce qui veut dire que toute la lumière du Mashiach viendra de qui? Viendra de son épouse. Et lui, il aura la force, l'honnêteté de le dire. Et quand on viendra lui cirer les bottes, il dira arrêtez. Toute cette période du culte du tzaddik, elle est finie. Maintenant, vous devez comprendre que nous, les hommes, nous portons une couronne sur notre tête. Qui fait de nous un roi? Mais c'est mon épouse.
Donc il n'est pas le Mashiach, c'est
comment?
Son épouse qui va faire de lui.
Mais évidemment, absolument. Et pour conclure, je dirais, malheureusement, le mouvement l'a beaucoup falsifié. Mais qui a reconnu après le décès de son épouse que tout ce qu'il était devenu, c'était grâce à elle? Le Rabbi Lubavitch, qui a fait un mahamar inimaginable, où il explique que tout ce qu'il a été, c'est grâce à elle. Alors c'est sûr que les chassidim, sur le moment, ils ont pris un sacré coup, hein, parce que le rabbi, et la femme, on ne la voyait jamais. La femme, on ne la voyait jamais. Elle ne venait jamais au 770. Elle ne faisait même pas ses courses à Cronite. Elle voulait pas qu'on la voie. Je vous étonne. Elle travaillait dans une bibliothèque non juive. Même pas juive. Elle était cachée complètement. Cachée complètement. On la voyait jamais. Elle était jamais au 770, voire dire bonjour à son mari. Même pas dans les fêtes, elle n'allait pas au 770. Et ça, je le tiens de quelqu'un qui était très très proche d'elle. D'accord? Je le tiens d'une femme dont la mère était une grande amie de la rabbanite. On la voyait jamais. Même pour faire ses courses, elle partait à l'extérieur de Cronite pour pas qu'on la vénère. Ah, la rabbanite, elle est là, on va vous faire un prix, on va passer avant tout le monde. Complètement inexistante. Et pendant des années, tous les chassidim pensent le rabbi. Et le rabbi leur dit, vous n'avez rien compris. Tout ce que je suis, je le dois à Chaya Mouchka. Celle qui m'a donné les deux niveaux d'âme les plus hauts. La Chaya et la Yechida. Et il explique qu'elle s'appelait Chaya. Il lui a donné la Chaya. Et Mouchka, il explique en yiddish, ça fait allusion à la Yechida. Ça veut dire mes deux plus hauts niveaux d'âme, je les dois à elle. Mais on l'a jamais vue ta femme, où elle est? Ben oui, cachée toute sa vie, un tzaddik authentique. Voilà. Et donc mes amis, on a compris de là que il faut qu'on arrête une fois pour toutes. Attention, ne me comprenez pas mal. Évidemment que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la lumière du monde. Évidemment que Moshe, c'est la lumière du monde. Évidemment que David, c'est la lumière du monde. Mais arrêtons de remplacer Dieu par les hommes. Et vous savez quelle est la plus grande teshuva que nous devons faire, nous, âmes Israël? D'accord? S'il y a 2 millions qui vont sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, eh bien qu'il y ait 4 millions qui vont au Kotel. Et malheureusement, on n'est pas tout à fait dans cette situation-là.
On se méfie toujours des miracles dans le peuple juif. On a eu la révélation. Mais les miracles, l'homme a tendance à croire un peu ce qu'il voit de façon superficielle.
Mais de toute façon, vous savez que beaucoup de critiques ont été émises à Méron, que tout le monde voyait, tout le monde savait que c'était hyper, hyper dangereux. Je vais raconter une histoire personnelle. Il y a quelques années, j'étais à Méron, j'ai failli y rester. J'étais écrasé, je ne pouvais plus respirer. Je suis arrivé par miracle à m'échapper. Je me suis baissé, je suis passé entre les jambes des gens et j'ai cru que j'allais y rester. Ça fait des années que Méron est un endroit, est une tombe ouverte. En grande partie, c'est la faute de l'État qui a refusé jusqu'à aujourd'hui de faire des infrastructures à Méron.
Pourquoi ?
Mais ils font pas, je sais pas. C'est pas normal qu'ils font pas.
Ce que j'ai entendu à la radio, c'est qu'il semblerait qu'il y ait une marloquette entre plusieurs groupes charedim. Chacun revendique la propriété du terrain.
Grâce à Dieu.
Et résultat des courses, rien n'a été fait.
Vous donnez la vraie définition d'un juif. Deux juifs, 50 discussions. D'accord, très bien. On sait comment ça fonctionne. On sait comment ça fonctionne, malheureusement. Mais l'État pourrait obliger de fermer le caveau pendant un an et de faire des infrastructures qui ne vont pas mettre les gens en danger. Il n'y a pas d'infrastructure. Tout est du sable, de la terre là-bas, tu glisses. On a tous été à Méron, on sait combien c'est. Et l'endroit du caveau lui-même, on peut rentrer sans étouffer, 200 personnes maximum. Ils étaient presque 1 million. Donc, qu'est-ce que beaucoup de critiques ont dit ? D'accord ? Hachem nous aidera. Hachem nous aidera, voilà, Hachem nous a aidés, voilà. Jusqu'à un jour où l'an, il en a eu marre, il a dit non, ça suffit, Atkan. D'accord ? Donc, encore une fois, ne comprenez pas mal, au contraire, je pleure sur... la majorité, c'est des enfants qui sont morts, des jeunes sont morts. Bien sûr qu'il faut pleurer.
On peut amener des enfants.
Mais oui, comment qu'on peut amener un gosse de 12 ans, il y a des gosses de 12 ans qui sont morts, comment qu'on peut les faire rentrer dans une foule d'assassins potentiels, parce que chacun inconsciemment, il risque de tuer l'autre. Comment c'est... Mais pourquoi ? Parce que ça, c'est le défaut des Juifs, Hachem Yazor, cette fois-ci, il n'a pas aidé. Voilà, et pourtant la Torah dit tout le contraire. Ushmartem benafshotechem, faites attention à vos vies. Pikwar nefesh dore takol. Le sauvetage d'une vie est plus fort que toutes les mitzvot de la Torah. Donc c'est une mitzvah d'aller sur la tombe de Rabbi Shimon Yochai, mais c'était interdit d'y aller tellement nombreux et de mettre tellement d'enfants en danger. Donc finalement, même les juifs les plus orthodoxes n'accomplissent pas la Torah. Encore une fois, nous ne parlons pas des morts que Dieu est leur âme et pleurons sur leur décès. Mais je parle d'une manière générale, c'est ceux qui sont censés représenter la Torah qui ne l'observent pas. Puisque tout le monde sait que c'est un danger inimaginable d'être tellement de personnes dans un endroit si petit et si mal conçu, sans infrastructure, sans rien. Vous comprenez ? Mais encore une fois, je terminerai encore une fois par cette phrase-là. Je pense qu'il y a aussi un remez qui vient d'en haut. Je sais que je vais me faire lapider, mais bon, je suis habitué à prendre des coups, c'est pas grave. Je sais qu'il y a un remez qui vient d'en haut, comme si Hachem voulait nous dire, mais jusqu'à quand vous allez honorer les tzadikim plus que moi ? C'est pas normal que 600 000 personnes partent dans la plus grande poubelle de l'histoire en Ukraine et qu'il n'y ait pas 600 000 personnes au Kotel. C'est pas normal que 2 millions se retrouvent chez Rabbi Shimon Bar Yochai et qu'on en arrive à 10 000 personnes maximum au Kotel. Comment ? C'est pas normal. Donc je pense que Hachem a voulu faire un remesse comme quoi, arrêtez de vénérer les hommes puisque vous me vénérez moi-même.
Oui. Dans un camp de concentration, par exemple, comme Sobibor, il n'y avait que 25 nazis et quelques centaines d'auxiliaires ukrainiens.
Oui.
Les nazis étaient...
Mais ils ne touchaient pas les juifs, les nazis.
Minorité,
sauf Mengele, etc.
Les minorités, ils donnaient les ordres.
Mais évidemment.
Et c'était les auxiliaires ukrainiens qui...
Ceux qui ont tué les juifs dans les camps étaient des Ukrainiens. Et je le dis avec toute la conviction la plus absolue que si Rabbi Nachman revenait aujourd'hui, mais il enverrait ses poings dans la figure de tous ceux qui osent aller à Ouman aujourd'hui en leur disant « Mais attends, je ne comprends pas. Après la Shoah, vous osez retourner là-bas. En plus, la plupart viennent d'Israël. Vous osez quitter la terre d'Israël pour aller dans la plus grande poubelle de la terre. Mais je suis sûr qu'il deviendrait fou. » Il deviendrait fou, d'accord ? Voilà. Ils laissent leurs femmes et leurs enfants, et puis, arrêtons de critiquer, Hachem, pardonne-moi, etc. Mais il faut comprendre qu'on arrive à comprendre une fois pour toutes que dans notre peuple, il y a des défauts gigantesques, inimaginables, qu'il faut absolument corriger pour mériter la délivrance finale. Prenez. Amen, vechen yiratzon.